Les se sont bien passés?
Oui.
Alors on commencera par l'exposé d'abord, et puis après on écoutera vos rapports, si vous êtes d'accord. Nous allons prier. Ô notre Dieu, nous avons besoin du secours de ton esprit pour pouvoir comprendre ta parole, la laisser entrer dans nos cœurs, se fixer dans notre sensibilité, pour que dans la vie quotidienne, nous puissions nous laisser influencer, diriger par cette parole, et qu'elle triomphe toujours de tous nos doutes, et qu'elle soit réellement une lumière à nos pieds, pour que nous marchions dans la lumière, oui, une lampe sur notre sentier. Nous te faisons éperdument confiance, et ensemble déjà, nous t'adorons pour l'heure de bénédiction que tu vas nous donner en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je pense que vous avez lu cette partie du chapitre 5 de l'évangile de Jean, où le Seigneur lui-même nous donne un enseignement très précis. Je lis depuis ce verset 24, où Jésus dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Donc, vous tous qui êtes ici, est-ce que vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle? Est-ce que ça peut être une certitude dans vos cœurs? Il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'il y a dans votre cœur d'autres passages qui confirment qu'on ne vient pas en jugement? Comment? Romains 8. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors nous le croyons fermement. Donc nous ne nous laissons pas troubler. Mais il est passé de la mort spirituelle à la vie. Nous étions tous considérés par Dieu comme morts dans nos fautes et dans nos péchés. Mais il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, c'est quand il était sur la terre, et elle est déjà venue. Donc elle commençait quand? Quand Jésus est venu la première fois. Où les morts, de quelle mort est-il question ici? Des morts physiques ou des morts spirituelles? Des morts spirituelles, vous comprenez bien. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et il la faisait entendre, sa voix. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui ont cru ont eu la vie, ont reçu la vie. Car comme le Père a la vie en lui-même, Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et nous avons d'autres passages qui nous disent que celui qui a le Fils a la vie. 1 Épître de Jean, chapitre 5, verset 9. Puisque la vie est dans son Fils, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Verset 27. Parlant toujours du Père. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Pour juger les hommes, il fallait que Dieu s'incarne et prenne une forme humaine et qu'il vive la vie humaine, de sorte qu'il peut maintenant juger parce qu'il est Fils de l'homme. Il a assumé complètement notre condition humaine. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tout ceux qui sont dans les sépulcres, ça c'est les morts physiques, hein? Ceux qui sont dans les sépulcres, entendront sa voix et sortiront. Tous ceux qui sont dans les sépulcres. Donc il est question que tous les hommes devront ressusciter. Mais ensuite, il y a une précision, ceux qui auront fait le bien ressusciteront, pourquoi ? Pour la vie. Pour la vie. Une vie qui est éternelle. Puis, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, si on en reste à ce verset, on ne peut pas savoir exactement si ça se passe en même temps. Et malheureusement, dans les confessions de foi, vous lisez un espèce de résumé, il reviendra pour juger les vivants et les morts, et c'est toujours la résurrection du dernier jour. Le dernier jour, c'est la fin des temps, bien sûr, mais est-ce que ça veut dire que c'est le même moment? Est-ce que c'est au même moment que les morts, ceux qui ont fait le bien ressuscitent pour la vie, et puis les méchants ressuscitent en même temps pour le jugement. Là, vous retrouvez la correspondance avec Daniel. Il y a une résurrection, comme nous l'avons lu déjà dans Daniel, et je me permets de le rappeler. Plusieurs, verset 2 du chapitre 12, de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle. Donc ça c'est très clair que c'est la même pensée. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alors nous cherchons toujours à savoir quand. Est-ce que c'est au même moment? Est-ce que c'est au dernier jour, le même jour? Et c'est pour cela que nous avons besoin de lire toute la parole et de repasser dans nos cœurs tous ces textes afin qu'il n'y ait pas une contradiction entre eux. Et Jésus continue en disant que lui ne pouvait rien faire de lui-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui me rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Et ce témoignage, ce n'est pas seulement celui de Jean, c'est le témoignage de son père. Alors, c'est bien clair. Donc, nous apprenons qu'il y a vraiment une résurrection pour la vie. Et tout de suite, nous allons passer à votre seconde lecture, qui était dans Luc au chapitre 16. Et nous laisserons le Seigneur nous enseigner. Ce Luc 16 ne nous présente pas la résurrection, mais elle ne nous parle pas de l'enfer non plus. C'est un état intermédiaire dans lequel nous apprenons que se trouvent les âmes décédées. Alors, nous lisons ensemble ce passage. C'est une parabole. Jésus veut chercher à donner quelque lumière à ceux qui l'entourent. Il y avait un homme riche. Est-ce que le Seigneur était contre les riches? Non. Est-ce que vous avez connu des vrais croyants qui étaient riches? Oui. En particulier qui? Job. Et qui encore? Abraham, le père de la foi, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas là une sortie contre les riches. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Est-ce que c'est mal d'avoir une vie heureuse? Non, n'est-ce pas? Mais ce qui serait mal, c'est de laisser à côté de nous quelqu'un dans la misère, sans se soucier de lui. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Puis qu'est-ce qui arrive? Dit Jésus. Que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, un jour, on meurt. Alors, le premier qui meurt, c'est le pauvre. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors, où mettez-vous Abraham? Qu'est-ce que ça peut signifier? Au ciel, n'est-ce pas? Au fond, dans le paradis, dans le sein d'Abraham, c'est le père des croyants. Donc, ça nous montre que ce pauvre était un croyant. Puis, le riche aussi mourut. Et il fut enseveli. On ne parle pas de l'ensevelissement du pauvre, mais ce qui n'a pas été vu, c'est ce transport de son âme par les anges. Tandis que le riche a eu un enterrement aussi splendide que sa vie l'avait été. Verset 23. Dans le séjour des morts. Donc là, nous sommes dans le séjour des morts. Le Seigneur cherche à nous expliquer qu'il y a donc un lieu intermédiaire. Il leva les yeux. Il ne faudrait pas penser, bien voilà, une fois qu'on est, que nous sommes morts, si on est croyant, eh bien, on voit tout ce qui se passe ailleurs. Et pour l'éternité, on verra les malheureux souffrir. Non. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Mais il est toujours le même, hein? Il est mort dans son péché, il est mort vraiment tel qu'il a vécu, et puis de l'autre côté, eh bien, il a toujours ce même esprit qui lui fait oublier les autres et ne pense qu'à lui-même. Il voudrait être, lui, soulagé. Et puis que Lazare, dont il ne s'est jamais occupé, soit employé encore pour lui faire du bien. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie, et Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, et toi tu souffres. » Puis, le verset 26, qui est très clair, qui montre qu'il n'y a pas de possibilité de changement après la mort. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc, une fois qu'on est mort, on ne peut plus changer sa situation. Ou on meurt dans la foi, ou l'on meurt dans l'incrédulité. Mais après la mort, il n'y a plus de possibilité de salut. Le salut, vous pouvez l'avoir quand ? Pendant votre vie. C'est cela qui doit ressortir de cette parabole. Après la mort, il n'y a pas de possibilité de salut. Donc, vous ne pouvez pas prier pour les morts, comme on a essayé de le faire, parce que ça rapportait quoi ? De l'argent. Il n'est pas question de cela. Et vous ne pouvez pas vous consoler en disant, ben, je fais des prières pour quelqu'un. Avertissez-le pendant sa vie. Le riche dit, je te prie, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. Donc, au fond, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande que Lazare ressuscite pour l'envoyer. Envoie Lazare. Il demande donc que Lazare ressuscite et que, ressuscité, il aille avertir ses cinq frères. Maintenant, il pense à ses frères qui vivent dans l'incrédulité comme lui avait vécu. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Là, eh bien, il y a un petit changement, parce qu'ils souffrent, et tout d'un coup, ils pensent à ses frères, et ils ne voudraient pas qu'ils aient le même tourment que lui. Alors, il faudrait trouver un moyen pour les sauver. Et Abraham répondit, ils ont qui ? Moïse et les prophètes. C'est ce que nous avons cherché à voir. Ce matin, nous avions pour nous enseigner les exhortations de l'Écriture sainte, donc de l'Ancien Testament. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais le raisonnement du riche, c'est ceci. Et il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Vous croyez que c'est vrai ? Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est le choix du nom que Jésus a employé dans sa parabole, Lazare. Parce que s'il y a quelqu'un qui est ressuscité, c'est qui ? C'est Lazare. Il y a eu un Lazare qui est ressuscité. Est-ce qu'on a cru à son témoignage ? Il a été ressuscité par le Seigneur et on a vu comment il a entendu tout mort qu'il était la parole et que cette parole l'a sauvé, l'a ressuscité. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressusciterait. Et que lisez-vous quand vous allez
de nouveau dans Jean, où est racontée la mort de Lazare, est-ce que les gens ont cru? Ils ont vu.
Pourquoi le mauvais riche ne mentionne pas son nom?
Son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. N'est-ce pas? C'est clair. Son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Mais nos noms sont écrits si nous avons cru, si nous croyons. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Alors, où en étions-nous? Nous allions chez Lazare, hein? Alors, Lazare est ressuscité. Quelques-uns ont cru, verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, chapitre 11, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Voyez que même un homme qui n'est pas croyant peut être amené à dire une vérité. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Il y avait donc eu un miracle extraordinaire, une résurrection des morts. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit dans bien des milieux? Il faut prier pour que une puissance nous soit donnée, pour que nous puissions, au nom de Jésus, ressusciter les morts. Est-ce que vous êtes d'accord? Que c'est cela que nous devons demander à Dieu? Dans cette fin d'économie, dans cette fin des temps, nous devons demander à Dieu la puissance. Oui, mais quelle puissance? La puissance qui peut nous permettre de tout souffrir pour avoir un témoignage chrétien, pour être authentiquement chrétien, faire des miracles. Vous serez impressionné, peut-être un moment, puis après vous trouverez une explication, mais ça ne va pas changer le monde. Jésus a fait des miracles, il a fait des signes, il a donné des signes, mais il nous montre que maintenant, et je voudrais que vous en soyez bien convaincus, le monde religieux va au-devant de quoi? L'apostasie. C'est l'apostasie partout, et ça entre dans tous les milieux. Et puis, quand c'est vraiment Jésus qui agit, est-ce qu'il amène la division partout? Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu une lettre d'Europe d'une personne de Paris qui me demande des renseignements sur Toronto parce qu'elle dit on amène toutes ces idées en France et en Suisse et c'est la division partout. Les gens se divisent, ceux qui sont pour Toronto, pour ses miracles, et puis ceux qui hésitent. Est-ce que c'est cela que le Seigneur veut? La mort de Jésus, elle devait rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui agit, il ne divise pas, il réunit, il rassemble. De sorte que notre prière, c'est pas de recevoir une puissance pour faire des miracles, mais c'est de recevoir la puissance quotidienne pour vivre chaque jour à la gloire de Dieu. Et pour découvrir qu'en lui nous avons tout pleinement. Nous n'avons pas besoin de choses extraordinaires. Nous avons besoin de fidélité. Et si vous voulez être fidèle, vous devez accepter qu'il y aura la souffrance dans votre vie. La souffrance est au programme du chrétien. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Alors, je lis encore le verset 54. C'est pourquoi Jésus ne se montrait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il y demeurait avec ses disciples. Et la Pâque des Juifs était proche, beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, « Que vous en semblez ? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Et vous connaissez la suite, comment le Seigneur a été finalement arrêté et crucifié. Mais je vous lis encore un passage dans Jean, au chapitre 12e. Au verset 35e, Jésus dit aux foules, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète avait prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» C'est Ésaïe 53. « Aussi, ils ne pouvaient croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Voyez-vous, il y a un temps où ce n'est plus que le jugement et qui va fondre sur l'humanité. Et nous arrivons à ce temps de jugement. Vous pouvez faire toutes les marches possibles, soi-disant, pour Jésus-Christ, ça n'impressionnera pas le monde. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Il y a toujours les exceptions. Dieu fait son travail dans les cœurs. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Car, quel était leur motif? Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alors qu'en est-il de nous? Or Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Qui est-ce qu'il a envoyé? C'est le Père. « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc le jugement du dernier jour, c'est un jugement qui sera définitif. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je l'ai dit comme le Père me les a dites. Alors, selon ce que nous venons de lire, aussi bien dans le chapitre 16 de Luc, que dans ce que nous venons de considérer, que pensez-vous? Quand on meurt, est-ce qu'on dort? Qu'est-ce que vous avez pu découvrir dans ces passages des évangiles que vous connaissez? Quand Jésus a su que Lazare était malade, à un moment donné, qu'a-t-il dit à son sujet, à ses disciples? Il a dit d'abord, cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et ensuite, il a dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais pour le réveiller. Alors, il a commencé par montrer que ceux qui mouraient dans la foi, il les considérait comme endormis. Tandis que quand il parle de ceux qui n'ont pas la foi, il souligne qu'ils sont morts, n'est-ce pas? Et quand Étienne, dans les Actes, puisqu'on va arriver dans les Actes maintenant, Étienne meurt, qu'est-ce qu'il est dit de lui? Il s'est endormi, même lapidé sous les pierres. Il est considéré comme endormi. Je lis au chapitre 7 du livre des Actes, verset 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux et pria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces choses, il s'endort. Alors la question, quand on meurt, donc on s'endort dans le Seigneur. La mort est considérée comme un sommeil, mais est-ce que c'est un sommeil inconscient? Non. Vous avez cela, alors, clairement établi, parce que Jésus ne peut pas nous donner une parabole qui nous mettrait sur un faux chemin. Mais peut-être que quelques-uns ont été troublés en se disant, alors est-ce qu'on on verra une fois mort ceux qui souffrent? Je dis là, ce n'est que l'état intermédiaire. Avant la résurrection. Avant la résurrection. Mais une fois ressuscité, c'est définitif. Alors, quand commence pour le chrétien, au fond, sa résurrection? Par une résurrection spirituelle. Comment? La nouvelle naissance, c'est la conversion. Au moment où vous croyez en Jésus-Christ, mais qu'est-ce que vous devez y croire pour être sauvé? Est-ce qu'il faut simplement croire que Jésus est le Sauveur? Non seulement qu'il est mort à la croix, mais vous devez croire à la réalité de sa résurrection. Si vous ne croyez pas à sa résurrection, vous pouvez me dire que vous croyez en Christ, que vous avez de l'admiration pour Christ, vous n'êtes pas sauvé. Si vous ne pouvez pas croire que Jésus est ressuscité, vous n'êtes pas sauvé. Or Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Où est-ce que nous trouvons cette affirmation qu'il faut croire à sa résurrection? Romains, chapitre 10. Si tu crois dans ton cœur, verset 8. Pour être sauvé. Pour être sauvé, c'est pas qui descendra dans les abîmes, verset 7. C'est en faire remonter le Christ. Ou qui montera au ciel, verset 6. C'est en faire descendre le Christ. Verset 8. Que dit-elle la parole? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si vous n'avez pas la foi en la résurrection du Christ, votre foi est vaine. Et vous n'êtes pas sauvé. Mais si vous croyez à la résurrection du Christ, alors vous êtes sauvé et vous expérimentez la puissance de ce salut, la puissance de sa résurrection, la puissance qui a pu ressusciter le Christ d'entre les morts, est à votre disposition, est la même puissance qui peut vous aider dans votre vie quotidienne. Mais, je le dis pour moi-même avec humiliation, j'en réalise si peu. Et pourtant, c'est vrai, je sais que c'est vrai, qu'il y a en Jésus ressuscité une puissance. Et quand je pense au ressuscité, quand je me confie en lui, j'expérimente cette puissance. Et pourquoi est-ce que nous ne l'expérimenterions pas tous les jours? C'est parce que Jésus doit devenir l'objet des affections de notre cœur. Or, dans le monde, eh bien, nous avons toutes les convoitises possibles, et c'est le monde qui prend la place. Alors, nous ne réalisons pas la vie chrétienne. Une vie vraiment chrétienne,
c'est quoi? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons ça dans les Colossiens. La vie chrétienne, c'est pas moi qui m'efforce de la vivre, je la laisse vivre par le Christ en moi. Comprenons bien cela. La vie chrétienne, ce n'est pas une espèce d'imitation de Jésus-Christ. Par nos propres efforts, c'est une vie qui nous tue. Cette vie où on s'efforce d'imiter Jésus-Christ, c'est un renoncement quotidien à soi, qui est un centre négatif. Tant que vous êtes centré sur vous-même, c'est négatif. La vérité qui nous libère, c'est le renoncement à soi. Jésus l'a dit. Renoncer à soi pour laisser Jésus vivre en nous, sa vie, et réaliser la pensée de Dieu. Est-ce que c'est possible? Ça va influencer tout notre comportement, toute notre marche. Est-ce que je vis selon les désirs du Père? Qu'est-ce qui caractérisait la vie de Jésus? Il vivait pour lui-même? Il vivait pour son Père? Il vivait pour glorifier son Père. Et il pouvait dire, à cause de ceci, le Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour mes brebis. Alors, tout est là. Quel est le centre de nos affections? Jésus n'est pas la dernière chance. Jésus, c'est le Fils unique et éternel de Dieu. C'est Dieu manifesté en chair. Jésus n'est pas simplement un moyen de salut. Jésus, c'est le salut. Mes yeux ont vu ton salut. Le salut, ce n'est pas quelque chose. Le salut, c'est quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui vit en nous. Et alors, quand nous verrons tout ce que nous enseignent les Épîtres, nous allons apprendre ce qui va se passer à la résurrection. Et quand aura lieu cette résurrection? Il y en a qui croient, et ce n'est pas parce qu'ils ont lu cela dans la Bible, qu'on ressuscite dès qu'on meurt. Est-ce que vous croyez cela? Vous entendez cela même dans des services funèbres? Comme si, voilà maintenant qu'il est mort, il est déjà ressuscité. Non. L'Écriture nous dit que la résurrection n'a pas lieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'endort dans le Christ. Mais est-ce qu'on s'endort dans la crainte? Ou dans la crainte d'un jugement? Nous allons le voir encore dans cette soirée. Chacun de nous, quand nous nous présenterons devant Dieu, puisqu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, on est mort, mais on est devant Dieu. Qu'est-ce qui pourrait nous faire craindre?
Gracias.
Comment? Si on n'est pas lavé de nos péchés. Mais comme chrétien, si je vis dans le jugement de moi-même, ben quand je serai devant Dieu, je me suis jugé. Nous nous jugeons continuellement dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Nous ne laissons pas traîner les choses. Nous sommes faillibles, c'est vrai, mais nous nous jugeons. Et il est dit que nous avons, si nous avons péché, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est pourquoi je souligne qu'une vie de communion avec Dieu, c'est une vie de confession. De confession actuelle. Chaque jour, nous confessons ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je me suis laissé aller à ceci, je me suis laissé aller à cela, et je me condamne. Alors, Jésus-Christ est là, devant Dieu, et il est dit que son sang est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Jésus est notre avocat, si nous avons péché. Alors, nous n'avons pas à craindre d'être jugés. Et quand je serai devant Dieu, et que j'aurai à répondre de tout ce qui a été ma vie, eh bien je reconnaîtrai que Dieu a raison. Et je lui donnerai raison. C'est chacun de nous qui sera d'accord avec Dieu, mais il n'y a pas de jugement pour le croyant. Nous comparaissons devant le tribunal de Christ pour recevoir les Mais si je n'ai pas, si je me suis contenté d'être, oh mais je suis sauvé, j'ai cru au Seigneur Jésus, et puis j'ai vécu ma vie après, bien évidemment, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une perte. J'aurai une perte devant Dieu. Le Seigneur me dira, mais tu n'as pas vécu vraiment pour moi. Comprenez-vous? Alors je porterai le jugement, je serai d'accord avec Dieu. Nous serons d'accord avec Dieu sur toute la ligne. Mais nous aurons une perte. Il est dit qu'une étoile diffère d'une autre étoile dans la gloire. Pourquoi avez-vous vécu? Et pour qui vivez-vous? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Votre gloire personnelle? Ou bien la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Vous savez, quand nous lisons la parole, elle nous parle. Et c'est cette parole qui nous juge. Alors elle nous juge déjà maintenant, nous vivons dans le jugement de nous-mêmes maintenant, aujourd'hui. Et nous apprécions de plus en plus d'avoir un merveilleux sauveur. Comme c'est vrai que j'avais besoin d'un sauveur. Est-ce que vous avez réalisé que vous aviez besoin d'un sauveur? Est-ce que vous le réalisez davantage aujourd'hui qu'au jour de votre conversion? Est-ce que vous vous voyez plus noir aujourd'hui que lorsque vous avez accepté le Seigneur comme sauveur? Comment? Ça ne s'améliore pas. Et on est de plus en plus d'accord avec Dieu au sujet du pécheur. Parce que nous le sommes. Et nous lui rendons grâce. Alors nous vivons vraiment dans la reconnaissance. Et vivre dans la reconnaissance, bien c'est être prêt à faire sa volonté. Et dans l'accomplissement de sa volonté, nous avons la joie. Prenons maintenant la question des actes. Qui sont les témoins principaux de la résurrection? De la résurrection du Christ? Les apôtres, n'est-ce pas, dans les actes. Puis les disciples. Et quel apôtre en particulier, d'abord? Qu'est-ce qui a annoncé la résurrection à la foule le jour de la Pentecôte? L'apôtre Pierre. Hein? L'apôtre Pierre est un des témoins de sa résurrection. Il dit qu'ils ont mangé et bu en sa présence. Ils sont les témoins de sa résurrection. Et c'est par la résurrection de Christ que nous savons qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Romains chapitre 1er, il était déterminé Fils de Dieu par la résurrection. Comment est-ce que je suis sûr que Jésus est le Fils de Dieu? C'est parce qu'il est ressuscité. Quand il est mort sur la croix, les gens passaient et disaient, si tu es le Christ, descends de la croix. Et que Dieu te délivre s'il tient à toi, hein? Que Dieu le délivre s'il tient à lui. Est-ce que Dieu l'a délivré? Pas sur la croix. Non. Mais il a fait quelque chose de beaucoup plus grand, parce que si Jésus était descendu de la croix, donc il ne serait pas mort. Mais est-ce que Jésus est mort? Oui, il est réellement mort. Il a été enseveli. Mais est-ce qu'on a retrouvé son cadavre? Mais on vous dit qu'on est en train de le chercher. On cherche le cadavre de Jésus. On ne l'a pas encore trouvé, mais on le cherche. Donc, on ne croit pas à sa résurrection. Nous sommes à la fin des temps. Et vous savez, il n'y a peut-être plus beaucoup de mois ou de jours avant que le jugement fonde. Mais c'est là que nous allons voir ce qu'est la résurrection et comment l'Écriture l'appelle. Une bienheureuse espérance. Je voudrais que vous notiez, au fur et à mesure que nous allons avancer, toutes les expressions que vous avez pu trouver au sujet de la résurrection du Seigneur. Résurrection de vie pour la vie, résurrection de jugement, résurrection meilleure, comme nous allons le voir. Alors, dans notre livre des Actes, il y a donc Pierre. Et qui a ensuite été très employé pour prêcher la résurrection, non seulement aux Juifs, mais aux païens? C'est l'apôtre Paul. Et il a eu la révélation de sa résurrection. Comme nous le verrons ce soir au chapitre 15 de l'Épître aux Romains. Et alors, dans la troisième question, dans ce même livre, quels sont les principaux objecteurs de la résurrection? Est-ce que vous avez considéré cela? C'était qui? La secte des Sadducéens, vous l'avez vu. Puis quand Paul a prêché à Athènes,
est-ce qu'on peut dire aussi que quand Jésus-Christ avait cité que
oui, ils ont été témoins de sa résurrection. Ça a été son annonce. Parce qu'il n'y est pas resté. Alors ça, c'est une autre vérité qui change, parce que c'est une... Les vérités concernant la résurrection, ce sont des vérités progressives. On est beaucoup plus loin que le chapitre 16 de Luc maintenant. Quand Jésus est ressuscité, il a emmené avec lui qui? Tous ceux qui étaient dans le séjour des morts. Il a emmené avec lui tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, ceux qu'on appelait captifs. Il les a emmenés avec lui, de sorte que ils sont où? Auprès de lui, comme le dira saint Paul, être auprès du Christ, c'est de beaucoup de meilleur. C'est l'épître aux Éphésiens qui nous donne cette révélation. Mais pour nous, la résurrection a commencé par le salut de notre âme. Et ça se terminera par la résurrection de notre corps, si nous mourons avant son retour, ou alors par la transmutation en un instant, en un clin d'œil, nos corps seront transformés, parce qu'il y aura des gens qui seront vivants au retour du Seigneur. Et en un instant, ils seront enlevés, et nous les vivants qui demeurons, nous serons transmués pour nous en aller auprès du Seigneur. Donc les Athéniens, quand ils ont entendu Paul prêcher, ils ont écouté son grand discours, qui était remarquable, au chapitre 17 des Actes, mais quand il est arrivé à parler de la résurrection devant l'Aréopage, verset 32, lorsqu'ils entendirent, chapitre 17 des Actes, parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Et d'autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Est-ce qu'il a eu l'occasion, Paul, de leur parler une autre fois? Pas à Athènes. Mais quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent Denis l'Aréopagite à une femme nommée Damaris. Donc, ceux qui s'objectaient à la résurrection, c'était ces païens d'Athènes. Maintenant, dans le chapitre 24, vous avez aussi quelqu'un qui était intéressé par ce que Paul annonçait. Mais qui n'a pas voulu que Paul continue. Voyez au verset 24 du chapitre 24, quand Paul est en prison. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive. Il fit appeler Paul. Elle entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi, quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent, aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Voilà un homme qui a entendu et qui n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Maintenant, dans le chapitre 26, nous avons le témoignage de Paul devant le successeur de Félix, et devant le roi Agrippa. Et on lui permet de parler. Au verset 4, « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite au Père. » Quelle est cette promesse que Dieu a faite au Père? C'est la résurrection. « Et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par les Juifs. » Donc la résurrection, c'est quoi? Ici, c'est une espérance. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Pour moi, j'ai cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. C'est ce qu'il avait fait pour Étienne. Et je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Est-ce que Jésus est ressuscité?
Oui.
Il est ressuscité. Comment? Non. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il l'a vu dans la gloire. Il a connu que ce qu'Étienne avait donné comme témoignage était vrai. Je vois Jésus debout devant Dieu. « Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et pour celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Donc Dieu ne nous révèle pas tout à la fois. « Je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, ceux qui sont mis à part. » En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, puis dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché. Par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce que nous avons passé par la repentance? Quand vous êtes vu devant Dieu, il y a la repentance. Puis qu'est-ce qu'il y a ensuite? La vraie conversion. Et qu'est-ce qu'une conversion? C'est un changement de direction, c'est un demi-tour. Avec la pratique de quoi? Des œuvres. Dignes de la repentance. Donc on est sauvé par la foi, mais pas une foi qui est sans œuvre, mais une foi qui se manifeste par des œuvres. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes, c'est ce que nous avons vu ce matin, et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, vous voyez cette résurrection d'entre les morts, hein. Vous pouvez souligner là le verset, vous l'avez aussi dans second, hein. C'est d'entre les morts, cette résurrection d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Voilà, nous nous arrêterons là. Et je vous demanderai maintenant vos rapports. Peut-être que nous pourrions nous lever pour nous détendre un peu.